Alors bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on était déjà venu une fois ici, ça fait 2 ans, mais juste pour voir l'abbé Jean-Michel, on n'était pas à l'église. Et maintenant, donc, il paraît qu'il y a un comité de mission ici qui veut bien aider l'église à voir un peu plus loin que seulement à Pau. Et donc, nous, on était 14 ans au Sénégal avec notre famille dans un projet de traduction de la Bible dans une langue locale qu'ils n'en avaient pas avant. Et oui, c'est vraiment la richesse de Dieu qu'on voit à l'œuvre, qu'on a parlé déjà ce matin, de Dieu qui est le Seigneur de l'univers et qui se manifeste, qui est venu dans notre petit monde. Alors j'étais tout émerveillé ce matin à réfléchir à ça à nouveau, que Dieu, le plus grand qui est le Seigneur de tout, il s'est fait homme, il s'est identifié avec nous. Et je pense dans ce passage qu'on a déjà entendu, n'est-ce pas, il y a un peu tout l'évangile là-dedans. Alors je vais juste relire les versets 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, j'ai appelé ce message « Dieu est-il Seigneur? Jésus est-il Seigneur ?» Bien sûr, on a un peu l'habitude de le dire comme ça. Donc, je voudrais un peu réfléchir avec vous, qu'est-ce que ça implique vraiment. Donc, déjà, nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ, depuis le début, il est le tout premier qui est impliqué dans la création. Il était là dès le début, il a créé le monde un peu avec Dieu, si on veut. Et puis, il était là à ce point crucial pour toute l'humanité, bien sûr, qui est crucial pour toute l'histoire, l'histoire avec un H majuscule, quand il était à la croix pour mourir pour nous et surtout pour ressusciter. Ça montre qu'il est vraiment le Seigneur de toute la création et pour toute éternité. Alors, quand on pense à cette notion de Seigneur, je pense qu'ici en France, il y a peut-être une connotation du Moyen-Âge. On pense un peu à des monarques, c'est peut-être pas toujours positif non plus, je ne sais pas. Alors moi, quand je me suis converti, j'étais étudiant et j'ai appris petit à petit qu'est-ce que ça veut dire avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Petit à petit, je me suis habitué à ces termes, comme tout le monde. Pour moi, ce qui était le plus important au début de ma conversion, c'était de laisser Jésus diriger ma vie. J'avais réalisé que moi-même, j'avais fait des études de mathématiques, tout passait par la logique, etc. Je n'étais jamais athée, j'ai bien cru que Dieu existe, mais je n'étais pas forcément d'accord de le laisser diriger mes décisions. Ce que j'ai fait, j'avais un peu le cliché aussi, comme beaucoup de gens en Allemagne, si je me convertis, je dois devenir pasteur, faire des études de théologie, tout ça, et je n'avais pas du tout envie. Et finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer de vivre comme ça, parce que finalement, est-ce que j'avais le droit de m'appeler chrétien si je n'étais pas vraiment soumis à Dieu avec toute ma vie? Donc, il y avait un moment que j'ai réalisé, non, je ne pouvais pas continuer, je devais me jeter à l'eau. Et puis, donc, depuis ce moment-là, j'ai pu dire que Jésus est mon Seigneur, mais je n'aurais pas forcément utilisé ces termes-là, mon Seigneur. Je ne sais pas comment c'est ici, je crois que ça dépend des endroits, mais en Allemagne, c'est assez rare de dire, de parler comme ça de Dieu ou de Jésus en tant que le Seigneur. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ça. Hein, ça a l'air très traditionnel, un peu vieillot de dire le Seigneur. Non, on ne dit pas trop ça. En France, c'est un peu plus souvent, je pense. Et au Sénégal, par exemple, l'église où on était, l'église locale, quasiment tout le monde disait, parlait tout le temps là, oui, je passe du temps avec le Seigneur ou je ne sais pas. Donc on a toujours dit le Seigneur, mais je me suis demandé des fois aussi comment les gens ont vraiment réfléchi. Hein, c'est devenu une formule qu'on dit comme ça. Et bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, c'est quand même une bonne chose de penser à ce qu'on parle. Hein. Souvent, on utilise des mots, c'est devenu des habitudes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc que Jésus est Seigneur? Alors, il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué. J'étais assez jeune chrétien et on était avec OM en France, du côté de Clermont-Ferrand, dans une petite église. On a fait une campagne d'évangélisation. Et un des premiers jours, on était arrivé avec notre équipe, on était voir une veuve qui était dans cette église, qui n'était pas très, très riche, mais qui avait à cœur de nous donner plein de choses à manger. Alors elle a vidé son congélateur et tout le temps elle a vidé avec un grand sourire, c'est pour le Seigneur. Et je ne sais pas, ça m'a marqué. Là, c'était vraiment authentique. Elle avait tellement une joie de nous donner, parce qu'il faut savoir, avec OM, les équipes, on leur donne le minimum. Il faut vraiment venir par la foi et avoir la foi que Dieu pourvoit. Et là, elle a pourvu, entre autres, par cette veuve. Mais donc la veuve, elle a fait vraiment dans la joie. C'est pour le Seigneur, ce n'était pas pour elle. Mais... Et donc j'ai retenu ça, ça fait 20 ans en arrière. Alors on est aussi un peu habitué à ce terme, la seigneurie de Jésus. C'est un drôle de mot, n'est-ce pas, la seigneurie. Alors déjà, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien sûr, le mot en grec, c'est kurios, vous connaissez bien, donc qui veut dire... Pourquoi vous ne vous connaissez pas? Alors, c'est peut-être une question des habitudes aussi. Hein, quand on travaille avec le texte biblique, on est confronté constamment avec ça. Donc, curios, oui, c'est vrai, il n'y a pas trop de mots en français qui sont dérivés de ça. Qu'il y a curier et laison peut-être encore. Mais en tout cas, ça veut dire, c'est celui qui possède, qui contrôle, les dirige. Donc, c'est littéralement l'idée qu'on a d'un seigneur qui est le chef. Bon, maintenant, je voudrais prendre trois aspects de cette idée de Seigneur qu'on trouve dans ce passage. Donc, la première, c'est que Jésus, il est le Seigneur sur la création. Comme nous avons lu, il était là depuis le début. Et nous savons qu'il va revenir. Si nous lisons l'Apocalypse, tout le monde va le voir un jour qu'il est Seigneur. Pour le moment, il y a beaucoup qui le croient même pas. Et c'est vrai, on a des beaux chantants, Jésus-Christ, Seigneur, et puis les chants inspirés par l'Apocalypse, tout genou fléchira, etc. On chante ça allègrement, n'est-ce pas? Et on sait que c'est la base de notre foi, que Jésus est le Seigneur de la création, qui était là déjà dès le début de la création, qu'il est divin. Et puis nous savons qu'il a, malgré le fait d'être Seigneur de la création, il a choisi de descendre sur la terre, de s'identifier avec nous, de devenir tout petit et un peu de rendre cette seigneurie, de lâcher un peu cette seigneurie qu'il avait pour que nous, on puisse se rapprocher de lui et être sauvés. Et un autre aspect qui fait partie de ça, qui se trouve aussi fortement dans ce passage, c'est qu'il est le Seigneur sur l'Église. Et on voit que Paul, il donne un rôle très, très dominant à l'Église. Pour Paul, c'est très important. Il parle de Jésus qui est monté au ciel et puis qui est devenu Seigneur, pas juste comme ça, mais de l'Église. Donc l'Église est vraiment quelque chose de très précieux pour lui parce que c'est dans l'Église. L'Église, c'est l'endroit où les nouvelles créations se retrouvent. Et maintenant, je voudrais vous partager par rapport à ça un graphique. Est-ce qu'on a le PowerPoint? Voilà. Alors, ça ne vient pas de moi. Ça vient en l'occurrence de Jean-Pierre Civelli, que vous connaissez aussi bien, je pense, et dont je vous transmets aussi les salutations. Et j'ai trouvé ça très parlant pour se rappeler de cette universalité du rôle de Jésus par rapport au salut vraiment du monde. Donc au début, il y avait la création, bien sûr, que Dieu il est à l'origine de tout ce qu'on puisse imaginer, l'univers, la terre, le ciel, les animaux, tout. Et puis très vite, il a commencé à s'élire un peuple particulier avec qui il a commencé à écrire de l'histoire. Bon, à côté de ce peuple, bien sûr, on sait qu'il y avait aussi d'autres peuples qui étaient à l'époque un peu exclus, un peu mal vus. Et puis, on peut dire que les choses se sont un peu rétrécies d'une certaine manière, bien sûr, jusqu'au point culminant, quand Jésus est venu dans la terre. Et il a amené tous ces... déjà, ce peuple de Dieu, plus les païens, et les a amenés ensemble et leur donné à tout le monde la possibilité de retrouver ce contact avec Dieu. Je n'ai pas besoin de vous aller dans tous les détails. Il y a quelques passages aussi, si vous voulez. Et puis, le nouveau peuple de Dieu, d'une certaine manière, est devenu l'Église. Et maintenant, Donc, tout passe par ce point culminant avec la croix. Toute l'humanité est concernée, qu'elle le veuille ou non. Il n'y a pas d'autre chemin pour venir à Dieu. Donc, rien de ça, de penser que c'est extraordinaire, ce rôle que Jésus a pris, c'est vraiment le point culminant de toute l'histoire universelle. Et maintenant, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, hein, si vous pensez aux actes? Ça a commencé à s'élargir à partir des tout premiers chrétiens, de la première Église. C'est devenu un mouvement qui, aujourd'hui, bien sûr, est partout dans le monde. On trouve des frères et sœurs dans presque toutes les cultures, pas encore toutes, mais on espère bientôt et on travaille pour que bientôt, ça sera des gens vraiment de toutes les langues, de toutes les nations qui puissent être devant le trône de Jésus. Mais d'abord, il y a l'Église qui est là pour justement amener l'Évangile dans le monde, ce message de Dieu qui nous a tellement aimés pour aller jusqu'à l'extrême. Et nous savons qu'un jour, il va revenir et le royaume de Dieu qui est déjà un peu là, mais on ne sait pas trop comment le saisir, n'est-ce pas? C'est un peu difficile, mais on sait que là où des chrétiens sont ensemble, là où quelqu'un se donne à Jésus, il y a déjà le royaume de Dieu qui commence. Donc la seigneurie de Jésus, elle se réalise déjà. Et un jour, bien sûr, ça va être visible pour tout le monde. En attendant, nous sommes dans cette phase-là, bien sûr, où nous ne voyons pas encore tout. Hein, il y a ces versets là où Paul dit, nous voyons comme à travers un miroir qui est un peu opaque. Il y a des choses qu'on aimerait bien savoir, mais bon, nous ne savons pas encore tout. Mais nous avons le Saint-Esprit, nous avons la révélation du plus important, de ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons aussi la responsabilité de ne pas garder cette parole de Dieu pour nous, n'est-ce pas, mais de la rendre disponible à d'autres, de l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas, etc. Alors ce mouvement, si on revient à cette idée que tout s'est concentré, au début nous savons qu'il y avait le péché qui a entraîné que ça allait de moins en moins bien avec l'humanité, dès les premières personnes, il y avait le meurtre, le mensonge, tout ce qui détruit le monde et qui a amené la mort. Et puis à partir de Jésus, maintenant nous avons la possibilité d'avoir la vie. Il y a la vie éternelle, la rédemption, le pardon du péché, un nouveau début. Et donc, c'est comme une grande ouverture hein, pour le merveilleux futur qui nous attend un jour. Et aujourd'hui, bien sûr, nous le connaissons tous, on est dans cette tension entre le déjà, ce qui est déjà accompli, et ce qui n'est pas encore. Je me rappelle, une fois, j'étais étudiant, j'étais un peu découragé, et puis je tombe dans ma lecture biblique, je tombe sur un verset de 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 6, verset 11, où Paul dit... Vous êtes déjà nettoyé, vous êtes déjà purifié, vous êtes déjà libéré. Et à ce moment-là, ça m'a fait tellement de bien de me dire, mais Jésus a déjà fait l'essentiel pour moi, je n'ai pas besoin de me battre par mes propres forces. Il a déjà accompli, mais au même temps, bien sûr, il y a des choses qui vont se développer, où je suis appelé à aller de l'avant. Et bon, le Saint-Esprit est là pour m'encourager. Les frères et sœurs sont là aussi, bien sûr. J'apprécie énormément la communion fraternelle. Et je pense vous aussi, de s'encourager, d'encourager les autres ou d'être encouragé moi-même quand j'en ai besoin. Donc oui, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir à ça. Donc juste pour vous rappeler un peu ce rôle que Jésus a joué donc pour le salut universel de l'humanité. Maintenant, tout ça, bah, plus ou moins, n'est-ce pas? On le sait. Alors, la deuxième chose, c'est un peu plus difficile, parce que Jésus, comme nous le chantons aussi, il est Seigneur dans ma vie. Alors, si c'est vrai, ça se dit facilement. On dit, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment on peut le mettre en pratique? Alors, moi, je me rends aussi compte que le dimanche, c'est assez facile. On est entre les frères et sœurs, tout le monde est gentil, enfin on espère. Et c'est facile de montrer le bon chrétien qu'on est, n'est-ce pas? Qu'on est spirituel, qu'on lit sa Bible, qu'on prie, qu'on cherche la communion fraternelle, tout ça. Mais alors le lundi, bon, quand il y a la petite, quand il y a les voisins là, qui veulent juste qu'on participe à une petite magouille, je ne sais pas, je suis au bureau, il y a un crayon là qui est joli, qui ne m'appartient pas, mais bon, je pourrais le mettre dans ma poche, ça peut toujours me servir, alors que je sais bien que ce n'est pas vraiment à moi. ou bien je peux tricher un peu à l'école, oh, juste un petit mensonge. Alors imaginez-vous, s'il y avait Jésus à côté, qu'est-ce qu'il dirait? Je pense que là, vite, on sentirait bien, on sait bien que hein, normalement, Jésus dirait, bah, je suis triste que tu agisses comme ça, ce n'est pas vraiment l'idée, là tu ne me laisses pas être Seigneur. Est-ce que tu ne m'as pas appelé Seigneur au dernier culte? Et maintenant, là, tu te comportes un peu comme si j'étais pas du tout là. Et tout actuellement, bien sûr, il y a la déclaration des impôts. J'imagine la plupart d'entre vous l'ont fait. Et des fois, n'est-ce pas, on est un peu tenté aussi à réduire peut-être certains chiffres. Mais là aussi, Dieu, bien sûr, veut qu'on soit honnête, qu'on soit entier et qu'on n'ait pas cette coupure entre la vie de dimanche et la vie de la semaine. Je pense que souvent, donc, on sait très bien ce que Jésus ferait s'il était à ma place. Et surtout, on sait ce qu'il ne ferait pas. Et bien sûr, lui, il veut qu'on soit 100% à lui et qu'on ne fasse pas des faux compromis. Pour moi, laisser Jésus être le Seigneur, ça veut dire surtout l'honorer avec ma vie. Donc souvent, c'est cette idée. Bon, je suis très imparfait, j'ai mes défauts, etc. Mais avec le peu que j'ai, je peux l'honorer, je peux lui donner l'honneur. Je peux faire en sorte que d'autres personnes, j'espère faire en sorte que d'autres personnes à travers moi, voient quelque chose de bon par rapport à Dieu, que je lui donne l'honneur et que ça se reflète, que ça inspire peut-être les autres à faire pareil. Donc nous savons que, bien sûr, nous avons besoin du Seigneur pour être sauvés, parce qu'on ne peut rien faire de notre propre force. Et la question de péché, je ne peux pas la régler moi-même. Bien sûr, c'est à moi de pardonner aux autres, mais tout ça, c'est seulement possible parce que Dieu m'a pardonné d'abord. Et alors, quand on était au Sénégal, c'était très intéressant parce que vous savez que le Sénégal, c'est un pays très musulman. Et alors, quand on prend des taxis, la plupart des taximans, c'est des musulmans. Et ils mettent des autocollants de tout genre dans leurs taxis. Souvent, c'est des images de marabouts, des choses comme ça. Mais très souvent aussi, on a vu des petits autocollants qui disent juste quelque chose comme « Dieu ait pitié de moi ». Alors, c'est curieux, hein? Les musulmans, ils sont très, très conscients du fait qu'ils ont besoin de pardon et qu'ils n'ont pas vraiment un style de vie comme il faudrait. Et pour une raison inconnue, ils ont besoin d'extérioriser ça en montrant à tout le monde par leurs petits autocollants. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils connaissent la solution, malheureusement. Hein. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment comme ça devrait être. Et là, récemment, j'étais au Centrafrique pour un atelier de linguistique. Et là, c'est assez différent, d'ailleurs, parce que c'est un pays très chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens et très, très peu de musulmans. Et là, souvent, on a vu des taxis où c'est marqué derrière « Jésus sauve » ou bien « À Dieu soit la gloire ». Ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, il y a des gens aussi qui sont très extrovertis dans l'autre sens. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous évangéliques. Hein, des fois, ils mettent ça peut-être un peu comme une sorte de superstition. Je ne sais pas. Mais en tout cas, donc on a l'impression que Dieu, il est assez présent dans la vie de tous les jours comme ça. Donc c'est intéressant. Donc même les non-chrétiens, bien sûr, ils souffrent souvent de cette idée d'être pécheurs. Et si vous pensez au verset de Romains 1 qui parle de la création, hein, où la gloire de Dieu s'est révélée, tout le monde peut la voir. Et en même temps, on sait qu'on ne peut pas atteindre Dieu comme ça. Et nous, bien sûr, nous savons que ce n'est pas possible parce que Dieu est saint, nous sommes pécheurs. On a besoin que Jésus soit venu dans le monde pour nous amener à cette sainteté de Dieu. Alors, quand on parle du salut, on peut se poser la question, quand ça s'est réalisé pour moi? Bien sûr, il y a le moment que Jésus était à la croix, où ça s'est réalisé en général. Maintenant, pour moi, pour la plupart, j'imagine de vous aussi, vous pouvez dire, il y a un moment dans ma vie où ça a changé. Ce n'est pas obligé que ce soit un moment précis, bien sûr. Moi, je me rappelle, avant ma conversion, une fois, j'étais à un camp. C'était 2 ans avant ma conversion. Non, un an avant ma conversion. Il n'y avait personne qui avait osé m'aborder parce que j'étais très polémique et tout ça. Mais une fois, je voulais chercher un passage dans la Bible qui avait été mentionné. Je prends la Bible de quelqu'un parce que je n'avais pas la mienne. Je l'ouvre et à la première page, c'était marqué « J'ai donné ma vie à Jésus tel jour, à telle heure. » Et ça fait tout bizarre. Donc, il avait noté ça dans sa Bible. Et bon, je n'aurais pas parlé à quelqu'un parce qu'à ce moment-là, j'étais très, très introverti. Mais je ne serais pas confié à quelqu'un comme ça. Mais cette question-là, cette idée, ça m'est resté. « Ah tiens, ça peut exister comme ça. Est-ce que ce n'est pas un peu radical ?» Et bon, maintenant, donc, un an après, il y avait ce moment-là pour moi. Mais en même temps, je dois dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas tout compris encore. Hein. C'était surtout cette histoire de soumettre ma volonté à Dieu, de ne pas être le Seigneur de ma vie, mais tout le reste, notamment le rôle de Jésus, j'ai commencé à le réaliser seulement à partir de ce temps-là, dans les mois qui venaient, que j'ai découvert la Bible, etc. Mais en tout cas, je sais que le salut, pour moi, ça a commencé en ce moment-là. Par contre, maintenant, la question pour être Seigneur... Ah oui, par rapport à ça, encore, si vous pensez à l'histoire de Zachée, hein, quand Jésus s'est invité chez Zachée, et puis on a vu tout de suite que Zachée, il a changé sa vie, et la vie qu'il devait rembourser, c'est les gens à qui il devait de l'argent, et réparer les dégâts qu'il avait faits. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Donc, c'était vraiment le salut, déjà le salut, bien sûr, pour Zachée, pour le régénérer, mais aussi le salut dans ses relations, dans les autres domaines de sa vie. Donc là, c'était clair, c'était à ce jour spécifique-là. Et Zachée aussi, il a réalisé quelque chose qui est aussi important pour nous, que le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse mettre dans la poche. Ça y est, c'est acquis. Je suis sauvé maintenant, je peux vivre comme je veux. Non, on ne peut pas séparer l'idée que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Parce que ça lui a coûté quelque chose, ça lui a coûté sa vie. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Hein, il y avait, je crois, Bonhoeffer qui avait parlé de la grâce bon marché, expression théologique, là, qu'on a pris la grâce pour soi, mais après, on continue à vivre comme avant. Alors, ce n'est pas ça le but. Oui, il y a un verset que je voudrais lire par rapport à ça. Matthieu 7. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ? Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Donc, c'est des versets assez terribles, n'est-ce pas? Parce que ça nous montre que ça ne se prend pas à la légère de dire « Jésus est mon Seigneur ». Il faut que notre vie aille avec, qu'on soit conséquent dans nos actions, avec nos paroles, et ne pas mettre le salut dans notre poche et nous dire « Voilà, ça y est ». Et bon, l'Église, c'est un excellent endroit, n'est-ce pas, pour nous encourager mutuellement à la sanctification. Et ben, c'est un des buts de l'Église, hein, qu'on ose aussi, qu'on a la liberté de se reprendre quand on voit quelqu'un d'autre qui est sur le point de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne lui plaît pas, de dire, ben, écoute, il ne faudrait pas que tu continues comme ça, ben, réfléchis, est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour toi, si tu l'appelles Seigneur Nous sommes appelés à nous encourager mutuellement à celui de sanctification. Et ce qui va avec aussi, bien sûr, c'est le témoignage. Est-ce que les autres peuvent voir que Jésus est mon sauveur ? Mon sauveur, oui, peut-être, mais qu'il est mon Seigneur. Est-ce qu'ils le voient aussi dans mes actes ? Est-ce qu'ils peuvent le voir parce que je dis Seigneur, Seigneur ? Bon, ça ne va peut-être pas suffire. Hein? Parce que nous savons bien que les paroles et actes, ça doit aller ensemble. Alors, pour arriver à la dernière partie... Jésus, il est le Seigneur sur la moisson, sur la mission, on peut dire aussi. Hein, c'est deux mots qui sont par hasard tout proches. Dans ce chapitre, dans ce passage de Colossiens, nous avons vu aussi qu'il va être, nous le savons, il est le Seigneur sur tout ce qui va se passer, si vous pensez à ce diagramme encore qui s'écarte. Nous savons que Dieu, il n'a pas besoin de nous. Lui, il pourrait se débrouiller tout seul. Mais il a choisi de travailler avec nous et veut nous utiliser avec nos petits moyens. Donc c'est à nous aussi de nous laisser utiliser par lui pour contribuer à sa mission. Et là, c'est quelque chose que lui, il veut nous honorer. C'est lui, il nous donne l'honneur de travailler avec lui malgré nos imperfections, que ce soit ici ou ailleurs. Il nous donne un privilège de le servir. Et en particulier donc, dans la mission Wycliffe, donc nous, c'est une contribution. Nous, on n'est pas en train d'évangéliser, mais on aide à ce que les gens puissent avoir accès à la parole de Dieu dans leur langue. Et c'est quand même quelque chose qui est très important. Sans une parole dans la langue des gens, on n'a jamais vu une église viable, vraiment solide. Donc voilà, juste ce dernier aspect que je voulais quand même mentionner parce que ça me tient beaucoup à cœur et je pense pas seulement à moi. Donc, ce service qu'on fait avec Wycliffe, c'est comme on sème d'abord pour que les gens puissent avoir la Bible. Et avec la Bible, maintenant, ça peut transformer leur vie. Ils peuvent mieux connaître Dieu. Voilà, j'aurais voulu relire le passage, mais on ne va peut-être pas prendre le temps pour ça. Donc, je vais m'arrêter là et juste vous souhaiter que vous réalisiez à nouveau qu'est-ce que c'est comme privilège d'avoir Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur et de vraiment le vivre, le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Merci.